raisons avec Virginia Woolf. Ce sera 5 moments consacrés à faire entendre une autre Virginia Woolf, une pensée pour aujourd'hui, vivante, insolente, combattante, joueuse. Avec l'écrivain et traductrice Agnès de Sarthe, nous allons commencer par réfléchir à une Woolf traductrice. La traduction, pour elle, c'est penser le monde. Woolf, cosmopolite, amoureuse de la Grèce d'Homère, d'Eschyle et de Xénophon, traductrice de Dante, passionnée par Tchekhov, sidérée par Proust, apprenant l'italien, le grec, le russe ou le français pour fréquenter les textes de plus près, Virginia Woolf est européenne avant tout. Elle n'a cessé de parier sur le dialogue intime et constant entre les langues, entre les littératures, entre le commun des lecteurs et le monde. Elle n'a cessé de réfléchir aux mots et donc à leur traduction. Que dit-elle ? Les mots n'aiment pas que l'on débatte de leur pureté ou de leur impureté. Si l'on fonde une société pour la pureté de l'anglais, ils manifesteront leur désaccord en fondant une autre société pour l'impureté de l'anglais. Ils croient qu'un mot est aussi bon qu'un autre, que les mots mal élevés sont aussi bons que les mots bien élevés, que les mots incultes sont aussi bons que les mots cultivés. Il n'y a pas de rang, il n'y a pas de titre dans leur société. Ils n'aiment pas non plus qu'on les dépose à la pointe de sa plume pour les observer un par un. Ils veulent rester tous ensemble, dans les phrases, dans les paragraphes, et même dans une page entière. Ils détestent être utiles. Ils détestent gagner de l'argent. Ils détestent qu'on discute d'eux en public. Bref, ils détestent tout ce qui les enferme dans une seule définition ou les limite à une seule attitude, car il est dans leur nature de changer. Parler du goût de la traduction et de la manière dont les livres ont été traduits, c'est donc le propos de cette rencontre avec Agnès de Sarthe, qui a traduit La Chambre de Jacob. Bonjour, Agnès Bonjour. De Sarthe. Vous êtes donc écrivain et traductrice, et vous avez beaucoup réfléchi à la lecture, à sa transmission et aux aléas de la traduction. Votre dernier livre, Le Roi René, c'est une biographie. Mm-hmm. Une biographie qui, d'une manière très woolfienne, relie le destin d'un homme, le pianiste et jazzman René Urtreger, à une réflexion sur vos relations, à l'amitié. Et vous y faites une sorte de traduction différente, la traduction en mots d'une musique indomptable. Alors, selon vous, quel rôle jouent dans l'œuvre de Virginia Woolf les lectures d'écrivains étrangers ?
Je crois que vous avez très bien introduit sa fascination pour la traduction à travers son tempérament d'européenne. Et au-delà même de l'européenne, il y a la femme qui est ennemie des frontières. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, ça se trouve à la fin de La Tour penchée, qui est un texte absolument magnifique, et il se termine ainsi, alors je vais lire, c'est un court extrait, c'est une traduction de Rose Sely, c'est comme si c'était une émission sur la traduction, je vais à chaque fois citer les traducteurs. Et donc Virginia Woolf écrit ceci. Rappelons un conseil qu'un éminent victorien, qui était aussi un éminent amateur de marche à pied, donnait aux promeneurs. Chaque fois que vous voyez un écriteau avec « défense de passer », passez tout de suite. Passons tout de suite. La littérature n'est pas partagée entre les nations. Là, il n'y a pas de guerre. Passons librement et sans crainte et trouvons notre chemin tout seul. Tout seul, c'est-à-dire bizarrement avec les autres, c'est-à-dire avec l'aide des autres écrivains. Et des écrivains qui sont de nationalités différentes et d'époques différentes, puisque la traduction, c'est aussi ce qui permet d'abolir le temps, la distance que crée le temps. Donc toute distance est abolie par la traduction. La distance d'un pays à l'autre, la distance d'une époque à l'autre. C'est pour ça que Virginia Woolf lit aussi bien Homère que Eschyle, que Sophocle. Elle envisage de comparer d'ailleurs les anciens avec les modernes sans cesse. Et il y a aussi chez elle ce besoin toujours récurrent d'élargir son espace, d'agrandir son espace mental. À un moment, elle dit « J'ai commencé à lire Freud hier soir pour élargir le cercle, pour donner à mon cerveau un champ plus vaste, pour le rendre objectif, pour sortir de moi-même. » Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent chez Woolf, c'est la terreur du « je », J-E, de l'enfermement, du solipsisme, du « moi, moi, moi ». Et la traduction, c'est aussi un moyen d'aller vers l'autre et d'inviter l'autre à sa table de lecture et sa table d'écriture.
Alors vous parliez, Agnès de Sarthe, de la Grèce, des écrivains grecs. Ces écrivains grecs, justement, je crois me souvenir qu'elle parle d'eux en disant qu'ils sont une leçon d'objectivité, justement. Parce que dans la littérature grecque, Homère en particulier, mais aussi Eschyle et les autres. La psychologie des personnages ne joue à peu près aucun rôle. Et la langue elle-même, comme le rocher de la Grèce, il n'y a rien d'inutile.
Il y a aussi toujours ce mélange chez Virginia Woolf de théorique et d'intime. C'est-à-dire que les Grecs, c'est à la fois les garants de l'objectivité, d'une certaine forme de... Comment on pourrait dire ça ? D'une forme... Il n'y a pas d'atermoiement. Ce qui est le contraire, l'atermoiement, c'est vraiment le contraire de ce qu'elle veut faire. Mais c'est aussi... C'est la littérature qui lui a été apportée, indiquée par son frère adoré, Toby. C'est lui qui l'a initié aux Grecs. Aux Grecs, les écrivains, parce que l'initiation à la langue, elle l'avait accomplie avant, pendant de longues années. On la voit très souvent dans son journal dire « Et maintenant, je vais faire une heure de grec ». Donc, elle a étudié cette langue en profondeur. Elle a étudié un certain nombre de langues, certaines avec plus ou moins... Moi, j'ai l'impression, en la lisant, que celles pour lesquelles l'apprentissage a été le plus accompli, c'était le grec. Il y a eu le latin, mais c'était moins passionnant, visiblement, peut-être à cause d'une moins grande intimité ou d'un moins grand lien avec les auteurs. Donc, il y a eu le grec, il y a eu le russe, puisqu'elle a même traduit, elle a co-signé une traduction avec Kotelianski d'un passage des possédés, qui n'était pas dans les possédés, dans Dostoïevski, et qui a été publié par la Hogarth Press. Donc, elle traduisait aussi du russe, avec l'aide quand même, je ne pense pas qu'elle était complètement peut-être prête à prendre en charge toute une œuvre seule, mais quand même. Et puis elle a étudié l'italien aussi pour lire Dante. Et elle envisageait aussi, alors le français, c'est au moment où elle découvre Proust, où là elle se dit, vraiment, faudrait que je lise en français. Je ne sais pas à quel point son français, pour le français, elle est allée aussi loin que pour les autres langues. Enfin, c'est déjà énorme, surtout pour une Anglaise, je dirais. Les Anglais ne sont pas connus pour leur goût des langues étrangères, et elle, là, elle révolutionne quelque chose.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'elle connaît bien les écrivains français depuis qu'elle est très jeune, et donc ça ne la pousse pas nécessairement à les étudier dans le texte, parce qu'elle parle beaucoup de Montaigne, elle parle de Madame de Sévigné, elle parle de la comtesse de Ségur, je crois. Je sais plus, elle a 5 ou 6 écrivains français qu'elle cite beaucoup, plus Proust, mais on sent qu'il n'y a pas un désir d'aller vers le texte original. D'ailleurs, pour ce qui est de Montaigne, d'ailleurs, les lecteurs français ne vont pas non plus...
Puisqu'ils lisent en traduction, on le lit en traduction, Montaigne.
C'est déjà une traduction.
Oui, tout à fait.
Alors, elle a une prof de grec, par ailleurs, qu'elle adore.
Oui.
Miss Janet...
Case, je crois.
Case. Donc, il y a quand même cette intimité de tous les jours, étudier, traduire. Qui donne aussi une sorte d'ordre et
qui est aussi un exercice, parce que toute sa vie, elle s'est livrée à des exercices, que ce soit la traduction ou ce qu'elle appelle les esquisses, qui sont des exercices pour l'œil, pour la main et pour l'œil. Et on peut imaginer que la traduction avait aussi ce rôle-là pour elle, c'est-à-dire une façon, comme elle dit, d'élargir son cerveau, d'agrandir le spectre, d'aller plus loin dans la connaissance de sa propre langue aussi.
Alors, donc, les écrivains français, Proust, Tchekhov, Freud, Dante, les Grecs. Est-ce que vous trouvez que dans le journal que vous avez préfacé, la question du traduire, de la façon de traduire, de la méthode pour traduire soit très présente ou pas particulièrement ?
Pas particulièrement. Ce qui ressort, c'est l'acharnement à apprendre, qui est spectaculaire, la curiosité, une sorte d'alternance bénéfique entre le mal que cela lui donne d'écrire et le mal que cela lui donne d'apprendre. Donc, à une douleur, on substitue une autre, on va de l'une à l'autre, et finalement, on finit par y trouver un peu de plaisir. Mais c'est rare, la page que vous avez citée sur les mots, qui est très, très, très précise, très aiguë, on ne va pas trouver des choses aussi presque techniques dans ces récits de traduction. C'est plutôt de l'ordre du catalogue ou de la liste d'accomplissements. Et j'ai réussi à lire tant de pages. Et j'ai réussi et j'ai encore appris de nouvelles choses. Donc elle est plutôt dans la conquête alpinistique presque de la traduction que dans le détail.
Pour que ça s'oublie pas aussi, pour que ça se perde pas. On voit bien qu'il faut pas que ça. Il faut que ça soit inscrit.
Entretenu.
Il faut qu'elle-même s'en souvienne qu'elle a fait ça. Elle n'a pas été paresseuse. Quoi, parce qu'il y a quand même toujours cette lutte contre la paresse.
Oui, et puis elle dit aussi à un moment qu'elle se méfie du plaisir. Elle dit qu'elle a sans doute hérité ça de son éducation puritaine. Et on voit dans le journal, il y a beaucoup de listes. Alors les listes des auteurs étrangers traduits en...
pas forcément traduit, mais en tout cas lu dans la langue originale. Mais il y a aussi de toutes sortes de listes des écrivains de sa propre langue qu'elle a lu et qu'elle va relire. Et donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pour se rassurer et se donner de la force de continuer. Ce qui ressort du journal, c'est que c'est quelqu'un qui travaille énormément.
C'est vrai. Ouais. Et ça, c'était important de le rappeler, de le dire par rapport à l'image qu'on a trop souvent de cette Virginia Woolf, un peu, comme elle dit, algue desséchée ou pâle ou toujours alitée ou manquante d'énergie. Et alors, qu'elle se reproche de ne pas avoir assez d'énergie, c'est une chose, mais c'est souvent les gens qui ont beaucoup d'énergie qui se reprochent d'en manquer. Et elle tire parti aussi de tous les travaux qu'elle entreprend.
On la voit aussi aller puiser de l'énergie dans la lecture. Souvent, c'est ça aussi qui revient. C'est-à-dire quand elle, dès qu'il y a un moment de découragement, elle va lire Proust. Elle le dit, elle l'écrit souvent. Alors que nombreux parmi ses amis pensaient que la lecture de Proust la tuerait. Ils redoutaient énormément qu'elle le découvre. S'ils avaient pu, ils auraient caché son existence. Puisque comme ils, d'une certaine manière, leurs arcs respectifs étaient tendus sur la même cible, ils avaient peur qu'elle pense qu'ils l'avaient atteinte le premier. Et c'est
ce
pas du tout
pas
ça.
Faux, voilà.
Mais quand elle le lit, elle est soulagée, elle est heureuse et ça lui redonne du courage. Elle a aussi cette relation-là avec Shakespeare. Elle retourne, s'il y a un moment de dolence ou de découragement, elle va lire Shakespeare et là, elle puise à nouveau des forces pour continuer.
Je trouve que c'est très beau et intéressant de rappeler cela parce que on croit trop souvent que justement les écrivains sont menacés par les autres écrivains, ce qui n'est pas totalement faux, mais par certains côtés totalement faux quand même, parce que au contraire la fréquentation de l'art et de la page écrite est un immense soulagement, en particulier quand on doute de ce qui est son cas et ce qui peut arriver, qui peut parfois sembler être le nôtre aussi. Quand on doute de l'intérêt de l'écriture, rien de tel qu'un moment de lecture pour savoir à quel point c'est
Il y a
vital.
Certains écrivains qui sont effectivement menacés ou qui se sentent menacés par d'autres écrivains. C'est presque une question de tempérament et ça c'est le mystère des différences entre les êtres. Mais c'est certainement pas le cas de Virginia Woolf, elle c'est exactement le contraire. Et sa pratique de la traduction, elle va aussi dans ce sens-là.
Oui, passage des frontières, ouais. Enfin nos frontières disons
ouais,
plutôt.
Oui, pas de frontières.
Alors, parlons à l'inverse maintenant de sa réception. Mm-hmm. Parce que la réception de Virginia Woolf, donc ça commence au milieu des années 20, je pense, en France. Mais c'est une réception très dispersée. Vous vous souvenez de cela? Et comment vous expliquez cette dispersion? Je me souviens que Marguerite Yourcenar donc, oui. se lance dans la traduction des Vagues. Mm-hmm. Parce que le livre a eu un grand écho, hein, principalement. Et d'ailleurs, oui. il va avoir un prix.
Alors, par dispersion, vous voulez dire que son œuvre n'est pas prise en charge par un éditeur unique qui fait... ça peut être que des hypothèses. Moi, j'ai l'impression que ça tient à la diversité de son œuvre. C'est-à-dire qu'à chaque livre, et ça aussi, on s'en rend compte quand on lit le journal, à chaque livre, elle se lance un nouveau défi et elle invente une nouvelle forme. Et commercialement parlant, puisqu'il s'agit quand même parfois de commerce dans l'édition, on peut devenir méconnaissable. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Ah, voilà, les Vagues, livre idéal », et qui espère que en ouvrant Mrs. Dalloway, il va tomber sur exactement la même forme, cette forme d'espèce de stance, de dialogue qui n'en sont pas, avec ces moments très, très poétiques, très lyriques. Et il va ouvrir Mrs. Dalloway et se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout s'étirait? Pourquoi ça s'arrête? Comment ça peut être si différent ?» Et être dérouté. Donc il peut y avoir un sentiment de passer d'une écriture à l'autre en ne comprenant pas à quel point ces écritures diverses font œuvre. Et ça, je crois qu'il fallait le temps et le recul pour apprécier avec la distance la construction d'une œuvre qui est très élaborée. Et qui est dans la précision et dans le risque aussi. Elle prend d'énormes risques. Maintenant, le fait qu'il y ait eu des traductions dispersées et des traductions nombreuses, parce qu'il y a aussi des œuvres qui ont été traduites puis retraduites, je me dis aussi que ça, peut-être qu'elle fait partie de ces écrivains pour lesquels la traduction ne s'épuise jamais. Parce que ce qu'elle propose comme texte est si difficile à saisir, si précis et en même temps si flottant, qu'on ne peut pas se satisfaire d'une seule traduction. Et moi, je me réjouis qu'il y ait beaucoup de traductions de Virginia Woolf. Je suis pas, pour certains auteurs, je me dis, franchement, c'était pas la peine, c'était uniquement pour, voilà, comme un coup médiatique, pour remettre un projecteur sur, je sais pas, voilà, pour inventer une fausse actualité. Mais dans le cas de Virginia Woolf, moi, je passe pas mal de temps à étudier, à comparer ces traductions avec des étudiants, d'ailleurs, et c'est souvent extrêmement riche, parce qu'on voit que chaque traducteur a adopté un parti pris, et que c'est dans le mélange de ces voix diverses qu'on va retrouver Woolf.
C'est des interprétations.
Oui, en fait. Ce sont des interprétations. Et ça fait un peu l'effet d'une interprétation en musique, c'est-à-dire que vous avez un chef d'orchestre qui va diriger une symphonie de manière complètement différente d'un autre chef, pas forcément parce que ce sont des époques différentes, mais parce qu'ils ont une conception de ce qu'est cette œuvre qui est très différente. Et alors, bien souvent, on va remarquer que, comme pour la musique, les gens qui ont lu, par exemple, le phare, Promenade au phare, dans une certaine version, vont préférer leur version, parce que c'est la première qu'ils ont lue. Comme la première version qu'on a entendue, ah là, Caraya, il n'y a rien de mieux pour... Et puis après, on se dit, en fait, peut-être que Bruno Walter, c'était pas mal. Mais c'était parce que c'était le choc, c'est le choc de la première fois. Mais si on se pose un peu et qu'on dépasse ce sentiment de c'est la première fois que je l'ai vu, donc il y a l'émotion de la découverte, c'est vraiment passionnant de confronter les traductions et de les faire dialoguer entre elles, parce que ce sont vraiment des interprétations qui se complètent.
Alors, ce qui est très intéressant, Agnès de Sartre, c'est que donc l'œuvre de Woolf, elle est tombée dans le domaine en 2012. Mm-hmm. D'ailleurs, elle est, comme pour beaucoup qui avaient une histoire de changement de statut, elle est tombée une première fois dans le domaine. Puis elle est sortie du domaine et elle est retombée dans le domaine public. Hein, il s'agit de domaine public et non privé. Donc en 2012, depuis donc les traductions se sont enchaînées. Oui. Et ce qui, enfin, mon impression, c'est que dans l'ensemble, Virginia Woolf n'a pas été desservie par de très mauvaises traductions.
C'est vrai.
Contrairement à des écrivains comme Truman Capote, Salinger ou Fitzgerald. Trois écrivains, enfin un peu plus, enfin, qui écrivent un peu après, mais pas tant que ça non plus, et qui ont, enfin, qui lui succèdent juste, mais qui ont tous été massacrés à la tronçonneuse, et sont tellement mal traduits que c'est presque illisible.
Oui. C'est presque drôle.
Mais dans le cas de Virginia Woolf, elle n'est pas très mal traduite, en revanche.
Alors, ça, c'est une joie. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, réjouissons-nous. Je crois que ça a un peu à voir avec l'impression que son écriture dégage, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « Oh tiens, si je traduisais Virginia Woolf ». Je peux moi-même témoigner de cette expérience, puisque je me souviens très bien d'un rendez-vous auquel j'ai été conviée par Marie-Pierre Grassedieu, qui dirigeait la Cosmopolite chez Stock à l'époque, et elle me proposait de traduire à nouveau La Promenade au phare. C'était pour La Promenade au phare que j'étais convoquée, si on peut dire. Et je me souviens d'être dans son bureau, d'ouvrir To the Lighthouse, donc dans sa version anglaise, de regarder la première phrase qui fait une demi-page et d'éprouver une douleur physique. Je ne sais même plus où j'avais mal. J'avais mal partout. Parce que je sentais que ça allait me demander un tel effort que je ne pourrais pas m'y consacrer. Et je suis sortie de ce rendez-vous en refusant cette traduction, en refusant de traduire Virginia Woolf parce que c'était trop dur. Bon, il se trouve qu'après, à cause d'une péripétie extrêmement étrange, j'ai fini par accepter.
Mais pas La Promenade au phare.
Mais pas La Promenade au phare. Mais je crois, je me souviens très bien de ce sentiment de... Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?
Alors, ce qui est assez étrange, Agnès de Sartre, c'est que donc vous n'avez pas traduit La Promenade au phare, qui a été retraduite par quelqu'un d'autre.
Par Anne Wick, oui.
Voilà. En revanche, vous avez traduit
La Chambre de Jacob.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que La Chambre de Jacob est réputée un texte plus difficile que La Promenade au phare.
Alors,
beaucoup moins...
C'est un texte que Woolf elle-même qualifiait d'expérimental.
Oui, c'est ça.
Donc, quand une moderniste qualifie quelque chose qu'elle fait d'expérimental, on a tout lieu de craindre le pire. Et je me souviens aussi que j'avais lu La Chambre de Jacob en français. C'est un texte que je n'avais jamais lu en anglais. Je l'avais lu en français et je me souviens aussi de cette lecture. Je lis tout ce livre assez rapidement, peut-être en 2 ou 3 jours, sans m'arrêter. Et je me souviens du sentiment, alors que c'est dans ma langue, je lis en français, de ne rien comprendre. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je termine le livre, je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Si quelqu'un se penchait sur mon épaule et me dit « Alors, qu'est-ce que tu lis ? C'est bien ? Qu'est-ce que ça raconte ?» J'aurais dit je sais pas, je dirais demain. Et je termine le livre, je ne sais toujours pas de quoi ça parle, mais une fois que je le referme, j'éclate en sanglots. Ça ne m'est jamais arrivé avec aucun livre. Et c'était une émotion purement esthétique, inexplicable, qui n'avait rien à voir avec le sens, ou alors le sens avait pénétré en moi par un autre trajet que celui qu'il emprunte usuellement.
Et donc, le cerveau.
Oui, peut-être, lui. Et c'est peut-être pour ça, étrangement, que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas traduire le livre que même dans ma langue, je n'ai pas compris.
Ça, c'est une bonne histoire de traduction.
Mais ça apprend à traduire. Parce que La Chambre de Jacob, c'est un livre dans lequel on ne sait jamais où on est, quand on est, qui parle, qui sont les personnages. Vous avez des personnages qui arrivent pour une scène, vous commencez à vous attacher à eux, à vous dire « Ah mais qui est-ce? Peut-être va-t-il revenir à la page 180 ?» Et puis vous ne les revoyez plus jamais. Alors qu'ils sont introduits comme si vraiment on allait, on a des détails qui les concernent, etc. Mais non, ils ne reviennent plus, on ne sait pas où ils sont, ils ont disparu.
Comme dans la vie, cela dit.
Comme dans la vie. Et d'ailleurs, ce « comme dans la vie », c'est exactement, en fait, c'est un livre qui est extraordinairement réaliste.
C'est vrai.
Mais il n'est pas réaliste comme à la manière des naturalistes, il est réaliste à la manière des modernistes, c'est-à-dire qu'il est morcelé comme est la vie, interrompu comme est la vie, les conversations qui s'arrêtent parce qu'un bus passe, parce que, je sais pas, un oiseau chante, parce que, etc. Les flux de pensée interrompus parce que, voilà, il y a quelque chose à faire, l'action interrompue par un flux de pensée parce qu'il y a quelque chose à penser. Donc, on est perdu. Et en même temps, je sais que la traduction de ce livre m'a permis de faire une sorte de progrès dans mon travail de traductrice, qui était justement, vous citiez le cerveau, ce merveilleux organe tout à l'heure, et j'ai conçu que pour traduire certains textes, il ne fallait pas passer par le cerveau. En tout cas, il ne fallait pas passer par le trajet habituel qu'utilise le cerveau pour traduire, c'est-à-dire que vous avez une phrase, et normalement, ce sont des mots, vous les regardez, vous connaissez les mots, leur équivalent en français, vous voyez la structure de la phrase, vous voyez à peu près à quoi ça correspond syntaxiquement en français, et vous allez d'une langue à l'autre. Et en fait, pour La Chambre de Jacob, si vous faites comme ça, ça ne fonctionne pas, parce que pendant que vous regardez l'anglais, ce phénomène-là qui a lieu normalement n'a pas lieu. Alors comment on fait? On remonte le flux de la phrase et on retourne à l'image. On retourne à l'image qu'a vue l'auteur, en l'occurrence Virginia Woolf, pour voir la même image qu'elle. Et c'est à partir de l'image...
Imaginer que...
Oui, oui. Je suis assez certaine de voir les mêmes choses. Mais bon, il faut aussi y croire pour faire de la traduction. Pour
traduire un genre de création.
Ce qui est impossible. Non, on ne peut pas traduire. Traduire est un événement impossible. Donc, il faut quand même y croire. Alors, je crois que je vois ce qu'elle voit. Et à partir de ce qu'elle voit, je traduis. Il y a une phrase dans La Chambre de Jacob qui illustre très bien ce propos. C'est une phrase qui dure, c'est deux lignes, elle n'est même pas très longue. Mais dans cette phrase, il y a 5 fois ou 4 fois, je ne sais plus, le mot « leaf », qui veut dire une feuille. Donc en anglais, ça donne « where they moored their boat, the trees showered down so that their topmast leaves hein, trailed in the ripples and the green wedge that lay in the water being made of leaves. Deuxième, shifted in leaf breadth. Troisième, as the real leaves shifted. » Donc on a 4 fois le même mot dans une phrase qui n'est franchement pas très longue. Quand on sait que le français est la répétition, déteste enfin, ça.
Oui, surtout le correcteur.
On se dit, comment je vais faire? Et puis en plus, on se dit, qu'est-ce qui lui prend de répéter sans arrêt la feuille, pourquoi toutes ces feuilles dans une phrase? Et je voyais pas du tout comment faire. Et il s'agit d'une scène qui se passe sur une rivière. Il y a 2 amis qui sont dans une barque. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais m'arrêter de traduire et je vais juste regarder cette phrase et voir l'image. Donc je vois une barque, l'eau, les arbres au-dessus de l'eau. Et je vois que, tiens, si je lève les yeux, je vois qu'il y a à la fois les feuilles de l'arbre et entre chaque feuille, il y a une sorte de trou qui a une forme de feuille aussi, mais qui est le ciel. Et puis, ces mêmes feuilles se reflètent aussi dans l'eau. Et puis, la barque elle-même a une forme de feuille. Et donc, je vois en fait les 4 occurrences, comme si je les situais dans le tableau. Et étrangement, une fois que j'ai eu situé toutes ces feuilles, les feuilles réelles, les feuilles reflétées, les feuilles virtuelles, les feuilles en ciel, les feuilles en feuille, les feuilles en eau, les feuilles en reflet, la phrase est sortie toute seule. Elle n'était absolument pas difficile à traduire. Là où ils amarrèrent leur barque, les arbres plongeaient vers l'eau, si bien que les feuilles ornant leurs mâts de hune ondoyaient dans les rides et dans l'échancrure verte d'une eau tout en feuilles remuées sur un tapis de feuilles que les feuilles véritables venaient chahuter. Donc il y a plein de feuilles, mais là, ces feuilles-là s'organisaient comme il faut dans la phrase. Donc voilà ce que je veux dire quand je dis qu'il y avait des moments où il fallait remonter à l'image pour pouvoir traduire, donc pas traduire de la langue vers la langue, mais traduire en prenant un petit détour.
Et on rejoint là, Agnès de Sartre, effectivement, ce cosmopolitisme de Virginia Woolf, c'est-à-dire cette façon de faire circuler les images et les mots sauvages qu'on a évoqués tout à l'heure à travers les pays, les langues, les cultures, librement. Finalement, c'est ça que vous nous racontez. Vous nous décrivez comment une barque ou les fameux vaisseaux scellés que sont les êtres humains, selon Woolf, circulent.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui a orienté ma traduction d'un mot que vous avez relevé au cours d'une de nos conversations, je m'en souviens. C'était un moment dans la chambre de Jacob, elle dit qu'ils vont se promener boulevard Raspail, et c'est écrit R-A-S-P-A-I-2-L-E-S, en français.
Sans S.
Enfin, en tout cas, c'est pas écrit comme Raspail, comme le boulevard Raspail de Paris.
Le chimiste, le célèbre chimiste
et politique. J'ai dit, c'était comme ça en anglais. Alors pourquoi la traductrice que je suis ne corrige-t-elle pas
alors
ce mot ?
Connais le boulevard Raspail.
Alors que je connais le boulevard Raspail, moi le chimiste, mais bon, je connais l'orthographe de ce mot. Et on est tenté, quand on traduit, si on connaît un peu mieux que l'auteur, on peut corriger, puisqu'on va améliorer le texte. Et moi, il me semblait que son boulevard Raspail était celui qu'elle s'imaginait. Pour elle, c'est tellement plus français, cette terminaison en A-I-2-L-E. Et donc, il est comme un objet pour elle, comme un objet, c'est-à-dire qu'un nom propre devient un mot et devient une sorte d'étendard de la France. Son étendard à elle, qui est vu depuis de loin, depuis l'Angleterre. Et donc, je me disais, gardons-le ainsi, parce que de toute façon, on voit bien que dans tout le passage qui est situé en France, avec ces gens qui ont des noms qui nous en rappellent d'autres, Crutendon, Malinson, ils se terminent tous en on, c'est étrange.
On
ne sait pas pourquoi. Mais c'est l'idée qu'elle se fait du nom parfaitement français. Et dans cette amitié qu'elle a pour une culture qu'elle maîtrise pas forcément très bien, mais qu'elle invite dans son livre, je trouvais que s'il y avait quelque chose à respecter, et à importer, y compris dans la traduction. Donc, c'était une façon pour moi de faire un hommage à sa manière de circuler d'un pays à l'autre et d'une langue à l'autre.
Laissons sa liberté à Virginia Woolf. Je vous remercie, Agnès de Sartre.
Merci.
C'était Avoir raison avec Woolf, une série proposée par Geneviève Brisac, réalisée par Marie-Laure Ciboulet, prise de son Jean-Louis Deloncle. Demain, la grande affaire de l'amitié avec Florence Sévos.